La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Avec ce matin un bras de fer institutionnel.
Oui, au Venezuela tout d'abord, où le tribunal suprême a annoncé cette semaine qu'il considérait comme invalides toutes les décisions du nouveau parlement, désormais contrôlé par l'opposition. Or, cette intervention du tribunal, dont 34 juges ont été directement nommés par le gouvernement, est considérée par l'opposition comme une manœuvre du pouvoir chaviste destinée à bloquer ses nouvelles prérogatives. En clair, note El Nacional, le tribunal essaye d'entraver et de contraindre la nouvelle assemblée, mais comme nous devrions tous l'avoir compris, le problème du pays n'est pas juridique, il est avant tout politique. Alors un petit retour en arrière s'impose. Le 7 janvier dernier, soit deux jours après son arrivée aux manettes de la nouvelle assemblée, l'opposition vénézuélienne avait défié le pouvoir en investissant trois députés anti-chavistes suspendus par la justice car soupçonnés de fraude électorale. À la demande du gouvernement, une commission a été créée pour enquêter sur cette affaire et en attendant ses conclusions, donc le tribunal acquis au parti au pouvoir avait donc décidé de suspendre les trois députés. Sauf que la nouvelle assemblée d'opposition a décidé de passer outre et voilà pourquoi le tribunal considère donc depuis comme nuls les actes de l'assemblée passés et à venir tant que les trois députés demeureront investis. Et l'enjeu est de taille car avec 112 députés et non plus 109, l'opposition passe de la majorité des 3/5 à celle des 2/3, ce qui selon la constitution du pays lui confère des pouvoirs élargis comme par exemple la possibilité de convoquer un référendum, de mettre en place une assemblée constituante, voire d'entraîner via une réduction de la durée du mandat le départ anticipé du président Maduro, peut-on lire sur le site de la BBC. Et de fait, le départ de Maduro représente aujourd'hui le but ultime de l'opposition qui s'est donné 6 mois pour y parvenir. Sauf que les affidés du président, parlementaires ou journalistes, ont juré de compliquer la tâche de leurs adversaires, écrit The Wall Street Journal. La chaîne Télésour, proche du pouvoir, fustige notamment le double discours de l'opposition qui, selon elle, oscille entre légalisme et tentation du coup de force. Bref, une atmosphère que The New York Times, comme la chaîne CNN, qualifie poliment de tendu. Sans compter que cette crise dépasse aujourd'hui largement les seules frontières du pays, précise le Temps de Lausanne. Les convulsions du Venezuela provoquent notamment l'inquiétude à Cuba. Cela fait 2 ans que de nombreux observateurs évoquent l'épée de Damoclès qui menace à présent l'île à mesure que s'essouffle le projet socialiste vénézuélien. L'effondrement des prix du pétrole, dont le Venezuela recèle les plus importantes réserves mondiales, mais aussi l'inflation exponentielle et les pénuries à répétition ont en effet précipité la large victoire de l'opposition législative de décembre dernier, ce qui signifie qu'à terme, l'éventuel remplacement des chavistes à la tête de l'État pourrait coûter cher à l'économie cubaine, fortement dépendante des 100 000 barils de brut achetés à prix d'amis à Caracas, qui en outre paye à Cuba 70% de ses exportations de services.
Un autre bras de fer institutionnel, Thomas, en Tunisie, il est possible que celui-ci ait lieu.
Oui, une forte secousse est en train d'ébranler la scène politique tunisienne, ouvrant la voie à une recomposition dont les contours sont à ce stade incertains. Le parti dominant le gouvernement à Tunis, Nida Atounès, est en train de perdre en effet son statut de premier groupe parlementaire à l'Assemblée, au profit de son ancien rival devenu partenaire, le parti islamiste Ennahda. Et même si la stabilité de la transition tunisienne célébrée avec emphase à l'étranger, comme l'a illustré l'attribution récente du prix Nobel de la paix, ne devrait pas en souffrir à court terme, en revanche, l'inquiétude sourd pour le long terme, précise le Temps. Cette nouvelle donne trouve en réalité sa source dans la violente crise de succession, semant la zizanie au sein de Nida Atounès, le parti qui avait gagné les élections en 2014 sur un programme moderniste anti-islamiste. Or, furieux de la prise de contrôle de l'appareil par le propre fils du chef de l'État, voilà que 28 élus, dont les ministres de la Santé et des Affaires Sociales, ont démissionné du parti ces derniers jours. Le groupe parlementaire a encore enregistré hier la défection de 10 de ses membres. Nous ne pouvons pas accepter le hold-up sur le parti mené par un petit groupe de personnes jouant la carte dynastique, dénonce l'un d'entre eux. Et c'est ainsi que Nida Atounès, qui comptait jusqu'à présent 86 élus, passe désormais sous la barre des 60 députés, ce qui signifie qu'avec 69 élus, Ennahda, issu de la mouvance des frères musulmans, devient mécaniquement le premier groupe à l'Assemblée. De quoi renforcer, sinon l'instabilité, à tout le moins l'incertitude autour de la transition tunisienne. D'où cet édito publié par le portail d'information Capitaliste. La Tunisie, tel petit chaperon rouge, Ne reconnaîtrait-elle pas le loup qui s'est déguisé en grand-mère? Non, il lui vient même une irrépressible envie de vomir et de hurler sa déception devant tant d'abjection et de filouterie. Au moment du bilan quinquennal de notre 14 janvier 2011, Nida Atounès, une des forces qui ont fait barrage à l'islamisation du pays, n'a pas fini de dérouler sous nos yeux le triste spectacle de ses luttes fratricides et de sa fin certaine, en tout cas sous sa forme de contrepoids égal ou supérieur au parti islamiste Ennahda. L'effondrement du parti fondé par le président de la République fait craindre désormais les pires scénarios. À tout instant, la success story tunisienne peut elle aussi rejoindre le groupe de ces pays du printemps arabe qui ont cru pouvoir s'essayer à l'exercice démocratique et perdu la partie.